Bienvenue pour ce déclencheur. On a énormément de choses à se dire en cette fin d'année 2009, et tout d'abord, je voulais vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de Déclencheur, de joyeuses fêtes de Noël et une excellente année 2010. On vous souhaite beaucoup de photos intéressantes, surtout beaucoup de plaisir avec la photo, et puis bien entendu tout le succès possible dans les autres aspects de votre vie. Pour nous, 2010 sera une année très importante, puisque on a beaucoup travaillé sur Déclencheur en 2009, on a connu quelques soucis, je vous l'expliquais en août déjà. Et vous l'avez vu, depuis quelques semaines, il y a un teaser sur la page de Déclencheur qui vous annonce que tout bientôt, on va faire le point. Et si vous êtes curieux, je vous en reparle après l'interview. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de Luc Saint-Elly de Panasonic. Et je lui ai demandé quelque chose, une question que je pose régulièrement aux fabricants, parce que c'est tout simplement utile, c'est de m'expliquer comment il voit le marché de la photo et son évolution. C'est souvent intéressant de comparer les points de vue, les différences. Il n'y en a pas tant que ça en final d'ailleurs. Mais j'enregistre rarement ces discussions parce qu'au final, elles sont très orientées. On ne peut pas raisonnablement s'attendre à ce qu'un fabricant dise autre chose que « on croit que nos produits répondent aux besoins du marché ». Alors, pourquoi faire une exception? Pourquoi l'enregistrer? Et pourquoi faire cette exception avec Panasonic? Bien parce que la photo, ça bouge beaucoup en ce moment. Si vous en parlez autour de vous, si vous êtes venu au salon de la photo, on ne peut pas le manquer. Personnellement, et là je précise que c'est un avis tout à fait personnel, je crois que la révolution numérique dans la photo, elle est seulement en train de commencer. Par là, je veux dire qu'on commence seulement à avoir de nouvelles fonctions, comme le live view, la vidéo, la projection d'images. Des choses dont on a déjà parlé sur Déclencheur d'ailleurs. Et puis surtout, et c'est ça qui est le plus intéressant, de nouveaux usages, de nouvelles approches de la photo. D'une part, on commence à faire des images qu'on ne savait pas faire en argentique. Et d'autre part, on en avait parlé par exemple avec Marc Ayrault dans l'épisode qui préparait le salon de la photo. La manière dont la société s'approprie la photo est en train de changer. Alors, on peut trouver que ces nouvelles images, ces nouvelles pratiques sont meilleures ou moins bonnes. C'est pas ça le débat, en tout cas pas pour cette émission. Ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre, de réfléchir à ce changement. Et Panasonic a évidemment une vision qui n'est pas neutre dans ce débat, puisque avec Olympus, il porte le format micro 4 tiers. Vous avez sans doute déjà entendu parler du format micro 4 tiers. C'est une approche différente pour les boîtiers haut de gamme. En deux mots, les micro 4 tiers, ce sont des boîtiers avec un objectif interchangeable, un grand capteur, bref, des caractéristiques de réflexe, mais sans la visée réflexe, sans le miroir, sans le prisme. Ce qui leur donne en final des caractéristiques et une utilisation assez différente. Si vous lisez le bloc carnet, je vous invite à le faire, vous y trouverez d'ailleurs un test assez détaillé sur plusieurs notes du Lumix GF1, qui est le dernier de la gamme et qui d'ailleurs m'a plutôt convaincu. Mais Luc vous l'expliquera dans quelques instants, c'est un hasard et ils ne l'ont pas fait exprès chez Panasonic. Bref, ce qui m'intéresse dans le discours de Panasonic face à ces changements, c'est qu'il est, disons, moins conservateur. Ensuite, bien entendu, c'est à chacun de se situer. On peut être d'accord ou pas. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir parce que le marché qu'imagine Panasonic, elle doit interpeller les photographes amateurs et pros, parce que si vous écoutez attentivement, il y a une certaine remise en question. Néanmoins, et je veux vraiment vous mettre en garde, avant d'écouter cette interview, rappelez-vous que le métier de Luc Saint-Elly, c'est de vendre le matériel Panasonic. Donc, plus que pour d'autres interviews, il est important de garder votre esprit critique en éveil, et en particulier quand Luc présente le matériel. Je crois que c'est une interview qui est vraiment intéressante, sinon je ne vous la proposerai pas. Mais il faut plus que pour d'autres, sans doute, faire le tri entre des réflexions très pertinentes à mes yeux sur le marché de la photo, et puis un discours plus marketing. Ah oui, je dois également vous signaler que l'interview a été enregistrée il y a un peu plus de 6 mois, en été. Je vous l'ai déjà dit, on a des gros retards dans la production des interviews. Vous nous entendrez parler d'un pari au début de l'interview, et là aussi, tous les détails sont sur le blog carnet. Je vous mettrai les différents liens sur www.déclencheur.com.
Je suis avec Luc Saint-Elly. Je ne suis jamais vraiment arrivé à comprendre ce qu'il faisait chez Panasonic. Luc, que fais-tu ?
Je suis prédicateur.
Tu prédis le menu de la cantine ?
Je prédis... Ah non, je ne suis pas voyant extralucide, je suis prédicateur. Non, mon métier, c'est de parler de ce qu'on fait, d'expliquer ce qu'on fait à deux publics. Le premier, c'est les journalistes. Un public que je connais bien. Et le deuxième, c'est les vendeurs de nos clients.
Tu es un peu le lien entre les ingénieurs et
voilà,
le reste du monde.
C'est un peu ça. Je suis tube digestif. Ils me racontent des choses absolument incompréhensibles et j'essaye de les digérer, de les régurgiter un petit peu. Voilà,
d'accord. Alors, on va faire un truc que je ne fais pas très souvent, parce que souvent, il faut bien le dire, c'est un peu ennuyeux quand on le fait. C'est demander à un responsable de marque d'expliquer certaines visions du marché, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler quelques fois ensemble et je trouve que même si sur les produits, on a d'ailleurs un pari en cours sur l'état de vos produits, même si je suis un peu moins convaincu par les produits, je trouve la vision du marché que vous avez dans les changements qu'on est en train de vivre autour de l'image et de la vidéo, me paraît assez pertinent. Donc je voulais que tu nous expliques ça à nos auditeurs.
C'est-à-dire que pour comprendre la stratégie de Lumix, Lumix la division photo de Panasonic, il faut voir que Lumix ça existe depuis 2002 à peu près, dans un monde où tous les autres intervenants ont 3 milliards d'années d'existence. Ça, c'est fondamental dans l'approche Panasonic. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le numérique a changé fondamentalement la donne, et pas seulement en photo. Le numérique, ça a apporté comme changement principal de séparer la fonction de l'objet. Dans un contexte argentique, Panasonic, comme tout comme les autres groupes d'ailleurs, australiens, généralistes japonais, n'avait pas grand-chose à faire, puisque dans un appareil argentique, il n'y a que des éléments qu'on ne connaît pas. Dans un appareil numérique, en revanche, il n'y a que des éléments que le groupe fabrique depuis la nuit des temps. Pour prendre un exemple, en dépiote un appareil photo, dedans, on a, je vais commencer par les trucs périphériques, un flash. Alors Panasonic, c'est un des principaux fabricants de flash. C'est-à-dire que des flashs Panasonic, tu n'en as sans doute jamais vu, marqué Panasonic, mais tu en as sans doute manipulé dans ta vie un nombre considérable. Dans un appareil photo, il y a des batteries. Alors Panasonic, c'est un des principaux fabricants de batteries. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la voiture, parmi tes auditeurs, s'il y a l'équipe Panasonic Toyota, c'est parce que l'électronique des Prius, les batteries des Prius sont faites par Panasonic. Il y a de l'électronique, qui est un des métiers de fond du groupe. Il y a un écran LCD, qui est également un des métiers de fond du groupe, entre autres parce qu'on fait des télévisions. Et les capteurs, Panasonic fabrique ses capteurs depuis longtemps. À une époque, d'ailleurs, on en fabriquait pour d'autres. Je crois que maintenant, c'est plus le cas. Et il y a de l'optique. Et alors, Panasonic, ça peut surprendre, mais fabrique de l'optique de précision depuis extrêmement longtemps. Si tu dépiotes ton PC, tu verras que le graveur est probablement un Matsushita dedans. La seule chose, un appareil photo moderne que Panasonic ne faisait pas, c'était de l'optique photo, d'où l'accord maintenant bien connu avec Leica, qui a permis à Panasonic d'apprendre comment ça marche relativement vite. Premier point à comprendre, c'est que Panasonic, c'est tout récent dans ce métier. Deux, c'est un métier dans lequel, paradoxalement, Panasonic a énormément d'ancienneté, mais d'ancienneté comme ça disparate. Et quand l'entité Lumix a été sommée d'investir ce marché, ils ont regardé ce qui se faisait, et ils se sont dit une chose très simple, c'est si c'est pour faire comme les autres, on est mort. En revanche, il y a un tas de choses qui ne se font pas, parce que tous les appareils du marché sont conçus de manière assez simple. On a numériser des engins conçus à l'époque analogique. Alors, si on regarde les trois succès, notamment au niveau des compacts, les trois succès qui ont propulsé Lumix, c'est un, la stabilisation optique, c'est tout bête. Quand Pana est arrivé, il s'est aperçu que les gens faisaient des photos avec l'appareil en bout de bras. Ça, c'est l'école téléphone. Alors, on peut en penser ce qu'on veut. Ergonomiquement, c'est une horreur, etc. Mais c'est un état de fait, c'est un constat de fait.
C'est une très bonne chose.
Et c'est comme ça. Et donc, il est impossible de faire des photos nettes, miniaturiser la stabilisation optique, qui n'a pas été inventée par Panasonic d'ailleurs. Elle a été miniaturisée, ça a été un carton. L'autre élément, alors là, il est encore plus représentatif de cette absence de culture et des avantages que ça a eu en l'occurrence. C'est quoi l'objectif standard en photo?
Le 50. Ouais.
Voilà. Ce qui est une vision de technocrate, mais pas une vision d'humain. Ce qui se passe, c'est que si on a un objectif de 50 mm sur l'œil droit et qu'on ouvre l'œil gauche, on va voir la même chose. Ça s'adresse qu'aux gens qui ont les vertèbres cervicales bloquées. Si tu regardes ce qui se passe quand tu rentres dans une pièce, automatiquement, tu files un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. Et j'ai fait l'essai à la maison, ça c'est fascinant. Tu couvres naturellement un angle qui correspond peu ou prou à 28 mm. C'est la première chose qu'ils ont constaté. La deuxième chose, c'est quand ils faisaient des études conso, c'est le vieux plan des mamies qui passaient leur temps à essayer de s'enfoncer dans le mur parce qu'il n'y avait pas assez de recul, pour, etc. Et donc, Pana, grâce à Leica en l'occurrence, était le premier à généraliser le grand angle sur sa gamme de compact. Aujourd'hui, ça paraît banal d'avoir un grand angle sur un compact, mais il faut voir quand Lumix est arrivé, le grand angle c'était un objectif de spécialiste qu'on trouvait plutôt chez les gens qui avaient des réflexes et qu'on achetait après quand on voulait faire du paysage, des machins. C'était vraiment un truc particulier, un vrai objectif spécialisé. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, ça a été la gestion intelligente des automatismes. Donc, c'est tout bête, la photo, c'est des réglages. Des réglages simples, hein. D'ailleurs, les principes de base de la photo, ça tiendrait en trois feuillets et un manuel d'appareil automatique, ça fait 400 pages. Ça, c'est le côté hilarant du numérique, ça. Mais comme les gens, ils veulent faire des photos et pas des réglages, les premières générations faisaient des automatismes à la serpette. Puis après, il y a eu des programmes qui sont arrivés, plus ou moins bien ficelés. Puis après, il y a eu des modes scènes. Et on en a abouti à un point où ça en était ridicule. C'est-à-dire, dès qu'on faisait une photo, il fallait indiquer à l'appareil ce qu'on fait comme photo. Alors les gens, ils avaient précisément acheté cet appareil pour pas se poser de questions. Donc chez nous, la R&D, il y a deux ans, ils se sont dit, c'est un peu con. Ils ont conçu un système où l'appareil, bêtement, fait des tests sur la photo et il essaye de reconnaître à quoi il a affaire et s'y trouve. Il bascule automatiquement dans le mode concerné. Ces trois points, gestion intelligente des automatismes, grand angle et stabilisation, ces trois points qui étaient totalement laissés de côté par les marques traditionnelles, parce qu'elles faisaient des appareils avec toujours ce même concept qui était hérité de l'époque du film.
On est à un passage important, et on le voit chez vous, on le voit chez d'autres acteurs. Il y a une convergence qui est en train de se faire entre matériel photo et matériel vidéo.
La vidéo, ça s'inscrit tout à fait dans ce que je viens de dire sur l'approche Pana, qui est de ne pas être lié avec ce qui s'est fait par le passé. Quand on regarde le marché aujourd'hui, il y a clairement en matière de vidéo une rupture de génération. Alors ça, c'est évident. Il y a l'utilisateur de caméscope qui est un utilisateur familial. Les raisons d'achat d'un caméscope, elles sont: je viens d'avoir un môme, ma frangine se marie, et avec Moumoun, on a pété le livret de caisse d'épargne, on s'est payé les 8 jours en Thaïlande dont on rêve depuis tout petit. Ça, c'est les 98% des motivations d'achat. Ça a comme conséquence que c'est un public très particulier, familial, souvent couple, enfin, etc., avec des motivations très particulières. Le caméscope, c'est événement familial. Un mariage où il n'y a pas de caméscope, ça le fait pas, quoi. En gros, quelque chose comme ça. Et la conséquence, c'est que ces gens filment très peu. Un caméscope, en principe, ça sert une fois. Ça sert pour l'événement familial pour lequel il a été acheté. Ensuite, il va sur une étagère, et ensuite, on l'oublie jusqu'au jour où on se rappelle qu'on l'avait là. Le marché du caméscope est très particulier, il est totalement plat. Il se vend tous les ans 600 000 caméscopes, à peu près 500-600 000 caméscopes. Ce qui, mine de rien, est à peu près deux fois plus que de réflexes. Hein. Donc, c'est pas un marché qui est anodin, mais c'est un marché qui est totalement plat. Alors que, par ailleurs, la vidéo explose littéralement. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération de gens, qui, pour la plupart, sont arrivés à l'image par le téléphone, hein, qui filment, mais alors beaucoup plus que leurs parents, parce qu'autant l'utilisateur de caméscope, il filmait juste l'événement familial pour lequel il avait acheté le caméscope, autant les nouveaux utilisateurs de la vidéo, eux, filment sans arrêt. Et ils filment pas avec des caméscopes. Ça fait réfléchir quand on est fabricant d'appareils à faire des images. Et donc, ce qui est en train de se produire, c'est que Lumix est en train de faire migrer sa gamme depuis des appareils photo qui filmaient de manière de moins en moins ridicule, parce que les compacts, toutes marques et tout niveau, commencent à faire des vidéos qui sont plus que correctes maintenant.
Il y a à peu près que le son qui reste
voilà,
un peu pourri.
Voilà. Et ça, c'est important, oui, c'est le son, exactement. Vers des engins qui sont totalement hybrides. Alors, le premier de la série, il s'appelle TZ7, c'est-à-dire que c'est un engin qu'on peut voir comme on veut, comme un compact, comme les TZ bien connus, compact agro zoom, ou bien comme un petit caméscope HD d'entrée de gamme. D'ailleurs, il pourrait tailler des croupières à pas mal de caméscopes HD d'entrée de gamme, y compris signés de chez nous, et qui traite les deux au même niveau. La nouveauté dans cette inflexion de la gamme, c'est ça. C'est plus une fonction annexe, la vidéo. Typiquement, tu parlais du son, bah, le TZ7, il fait du son stéréo de manière relativement honnête, si on considère qu'il a bien sûr des tout petits micros situés dessus. Il y a pas
qui avait seulement une entrée son.
Voilà. Donc les limites du genre, mais avec un son assez honnête, un zoom qui est utilisable en vidéo, qui génère pas trop de bruit, enfin, etc. Il peut tenir sans problème tête à un petit caméscope HD d'entrée de gamme. Et le GH1, c'est la même idée, mais en prenant la plateforme du dessus, qui chez nous est la plateforme G, et donc c'est un GH1, c'est un G1, plus un caméscope, alors lui, un peu plus haut de gamme. La démarche, au fond, est la même, c'est cette idée que aujourd'hui, la séparation entre un appareil photo et un caméscope, elle est liée à des contingences mécaniques qui sont héritées de l'époque du film, mais qui probablement, moi j'ai un môme qui va avoir 15 ans, il est probable que quand il sera adulte, pour lui, la séparation entre un appareil photo, ça lui paraîtra un truc tout à fait néandertalien. Déjà, tous ces gamins qui filment avec leur téléphone, le fait qu'ils soient en mode photo ou en mode vidéo sur leur téléphone, c'est anecdotique. Après, il y a des moments où la photo est mieux pour faire certains trucs, d'autres moments où la vidéo est mieux pour faire certains autres trucs. C'est pas l'outil qui segmente, c'est le besoin. C'est ça, c'est le vrai... Je suis pas sûr que ça a bien été intégré par tout le monde, ça. Le vrai apport du numérique, c'est la séparation entre la fonction et l'outil. Avant, à l'époque de l'analogique, on concevait un outil pour répondre à une fonction. Un appareil photo à film ne peut mécaniquement pas filmer. Une Bolex pouvait difficilement faire des photos, etc. Un téléphone à cadran et à contour CD pouvait pas envoyer des emails, parce que chaque outil était conçu pour une fonction dans un univers analogique. Dans un univers numérique, l'outil, c'est un réceptacle, un certain nombre de process, d'algorithmes et de choses comme ça, qui peuvent avoir des fonctions relativement différentes. C'est un mouvement qui est un mouvement de fond. Faut pas le voir comme un espèce de gadget, même si parfois tu peux dire, vu mon usage à moi, je peux vivre sans. C'est un vrai mouvement de fond. Moi, je prends le pari que la Photokina 2010, tous les gros appareils filmeront, et ça paraîtra bizarre quand un gros appareil ne propose pas ça, quoi. Ce que permet le numérique, c'est d'avoir en gros l'outil que je veux pour l'application que je veux. Mmh. Ça fait que tu peux avoir la même fonction sur différents objets.
Voilà.
Et qui correspondent à différents moments de vie. Moi, j'ai fait des photos avec mon iPhone. Certes, elles seront toutes petites, elles sont pas là, mais de toute façon, j'avais pas d'appareil photo. Bon, je l'ai fait, donc entre ça et rien, je préfère encore ça. Et c'est vrai que c'est absurde de se balader avec 15 kilos de matériel en permanence, c'est absurde. Mais il y a certains moments où, effectivement, le réflexe a tout son sens, et là-dessus, il n'y a pas de débat. Et c'est logique que la séparation entre caméscope et appareil photo finisse par se flouter, au fond. Donc, ça va changer beaucoup de choses. C'est dans l'air du temps. La vidéo est en train de connaître l'espèce d'âge d'or qu'a eu la photo il y a quelques années. Donc
on a des choses à réapprendre, on a des trucs à...
Il y a beaucoup de choses à réapprendre, parce que la photo, les principes esthétiques de la photo sont relativement simples, puisqu'il n'y a pas d'aspect narratif. La photo, c'est brutal, enfin, c'est du brut de fonderie. J'ai une émotion, un machin que je veux rendre, paf, je le fais, voilà, j'y arrive ou j'y arrive pas, mais voilà. Dans la vidéo, il y a un aspect narration continuité, début, fin, enfin, un peu comme dans le son. D'ailleurs, la vidéo, il y a pas mal de proximité avec entre le son et la vidéo, c'est les mêmes, la même idée, qui sont, alors, pour
coup,
voilà, qui sont pas du tout naturels. On peut faire une photo bien par hasard, je veux dire. Tu l'as presque pas fait exprès, mais quand même, celle-là, elle le fait vraiment. Faire une vidéo bien ou un son bien par hasard, là, c'est déjà plus compliqué. Il faut vraiment que le hasard, ça soit un méchant hasard.
Il faut que ce soit 15 secondes
voilà, c'est vraiment un méchant hasard.
Il y a un plan fixe.
Ouais, exactement. Exactement. Donc là, je pense qu'il y a des tas de trucs à encore apprendre pour tout le monde à intégrer cette culture. Puis alors, en arrière-plan, il y a un autre point. C'est qu'il se vend donc 500-600 000 caméscopes par an en France, compte 5 millions d'appareils photo. C'est dingue, hein, 5 millions d'appareils photo.
5 millions d'appareils photo. Et toutes compact, les années, réflexe, toutes catégories confondues.
Et toutes les années, on dit, oh là, ça va se casser la figure. Et toutes les années, on fait 5 millions. Ça veut dire qu'ils se vendent 10 fois plus d'appareils photo que de caméscopes. Les appareils photo sont tous pareils. Que tu achètes un appareil photo à 99€ ou un appareil photo à 9 000€, il est identique. Ce qui va changer, c'est la qualité des composants, leur nombre, etc. Mais les principes sont absolument identiques. Quand tu es fabricant, tu fais de la R&D, c'est déclinable, machin. Donc, si tu veux du budget de R&D dans la photo, vu l'amplitude du marché, ça va. Le caméscope, il s'en vend donc 10 fois moins que d'appareils photo. Sur ces 10 fois moins, tu as deux formats, standard HD, et en support, tu as disque dur, carte mémoire, mémoire flash, DVD et cassette. C'est que chaque caméscope est pratiquement une niche à lui-même. Quoi. Et donc, en termes de R&D, c'est plus facile d'aller demander des sous quand tu es dans un département photo que quand tu es dans un département vidéo. C'est normal que l'aspect coup de boutoir, nouveauté, arrive du côté de la photo, qui est un marché qui a des moyens que n'ont pas certains autres marchés, notamment celui du caméscope. Ça, c'est clair. C'est aussi l'explication pourquoi les téléphones progressent si vite. Quand tu es rien qu'en France sur 19 millions d'appareils par an, c'est sûr que les gens de la R&D ont plus de facilité à aller demander une petite rallonge budgétaire quand même. Tu vois,
c'est... Je trouve que les téléphones progressent vite.
Ouais, quand même. On devient blasé et parfois on manque de recul. Moi, j'ai connu les Radiocom 2000 avec la mallette et puis les Bebop de France Télécom avec le truc. Et ça remonte à pas si vieux que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais dit que j'ai regardé mon email dans un bidule comme ça, qui avec un abonnement forfaitaire, machin. On aurait dit, c'est monsieur, il regarde trop Star Trek.
Voilà, voilà. Ouais.
Donc, c'est vrai qu'on finit par être blasé par ces trucs-là, mais ça va quand même relativement vite. Quoi.
Si la convergence est naturelle du point de vue informatique, culturellement et sociologiquement, elle n'est pas.
La culture, elle s'est délitée totalement. Il a été remplacé par une culture. Alors, c'est pas forcément péjoratif, si ça se trouve c'est darwinien, hein. C'est peut-être l'évolution naturelle des choses. Je vois, en photo par exemple, la culture photo n'existe plus, y compris chez des gens qui ont une pratique sophistiquée. Quand je dis la culture photo, c'est même pas la culture au sens artistique machin, mais la... avant, pour faire marcher un réflexe à film, ça nécessitait
une somme de compétences.
Ouais, disons plutôt la compétence, mais la compétence c'est un côté pontifiant, ouais. Comme ça, j'aime pas bien le terme, c'est un côté un peu frimant. Tout simplement pour le faire marcher, il fallait savoir ce que c'est qu'un diaphragme, il fallait savoir ce que c'est qu'un temps de pose. Il y avait des choses comme ça, c'était inhérent, mais t'avais pas l'impression d'apprendre un truc magique, puisque de toute façon, si tu sens ça, tu pouvais pas le faire marcher.
Sure.
Aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de ça. Et ça, je le vois dans les discussions, dans les questions que j'ai, parfois dans des cercles un peu évolués. On te pose parfois des questions, tu te dis, mais est-ce qu'il réalise bien ce qu'il est en train de me demander parfois. Typiquement, l'exemple que j'aime bien, il est représentatif, celui-là, il va falloir que je fasse une compile du nombre de fois où on m'a demandé quand est-ce qu'on allait avoir un LX3, que notre petit compact, il a un objectif qui est un 24-60 ouvert à 2 à 24 et à 2-8 à 60. Quand est-ce qu'on aurait un LX3 avec un capteur micro 4 tiers? La question, elle est absurde. Parce que si tu fais un objectif qui couvre le micro 4 tiers ouvert à 2, tu vas avoir un truc énorme. Avant, il y a 20 ans, personne n'aurait demandé ça puisque tout le monde aurait compris que, effectivement, ce problème, il était physique. C'était même pas un problème conceptuel, électronique ou autre, quoi. Mais aujourd'hui, on va te demander ça sans problème.
Un des trucs que tu dis toujours et qui, tu démarres toutes tes conférences de presse par ça et on sent le message bien rodé, mais en même temps, il est pas complètement idiot. Il y a toute une catégorie de gens qui sont arrivés à la photo avec le numérique.
Ah oui, ou
qui ont trouvé ça sur leur iPhone et tout, puis ils sont passés un petit compact. Et puis, ils veulent aller plus loin. Et le mantra traditionnel, c'est tu t'achètes un réflexe, mon grand, tu seras un homme. Et puis, il y a des gens qui se reconnaissent pas là-dedans. Non, et c'est assez marrant. J'étais à un concours il y a 15 jours où le troisième prix avait été fait justement avec un Lumix, machin. Et j'interviewais le gars. Et il me disait, moi, je veux absolument pas d'un réflexe parce que trop gros, trop encombrant, trop machin.
Bah bien sûr, parce qu'on est dans une position historique. Si tu regardes l'évolution de la photo, à l'époque du film, la segmentation en réflexe ou compact était très simple. Pour faire marcher un réflexe, il fallait savoir ce que c'est qu'un temps de pose, un diaphragme, une sensibilité. Donc, où la photo t'intéressait suffisamment pour que tu trouves ça fun, machin, bidule, et tu pouvais envisager d'acheter un réflexe, qui n'était pas spécialement hors de prix d'ailleurs. À l'époque du film, les Minolta, SRT, les Pentax avaient des Camille, qui n'étaient pas spécialement des appareils. C'est pas un appareil de luxe, simplement c'est un appareil compliqué. Ou alors tu avais un usage strictement familial, la photo de vacances, machin, t'achetais un compact.
Donc, ou un Instamatic.
Ou un Instamatic, ou un Polaroid, etc. Donc la séparation, elle était très claire. C'était vraiment sur l'usage pur et dur. Numérique est arrivé, la séparation, elle a été sur le pognon. Vu le prix des réflexes du début, qui valait le prix de ta bagnole, ta maison, de la bagnole de ton voisin, etc. Donc du coup, la question se posait pas trop, quoi. Ou alors t'avais gagné au loto, ou alors tu t'achetais un compact. les réflexes ont commencé à descendre de prix. Ils étaient chers, mais bon, ça commençait à devenir envisageable en faisant un petit sacrifice.
Puis on a eu le D70 chez Nikon qui a été un peu le basculement.
Voilà. Moi, j'ai un D70, j'ai dû payer 1 500 €, un truc comme ça.
Oui, c'était achetable.
Voilà, donc c'était pas vraiment donné, mais c'était quand même un prix, en faisant un peu de sacrifice, c'était possible. Et maintenant, on en est, la bascule est totale. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est caricaturale. On vend très bien, d'ailleurs. Le TZT dont je te parlais, cet appareil hybride caméscope photo, il doit être vendu quelque chose comme 400 €. Je sais pas le prix combien c'est vendu, mais c'est quelque chose comme ça. À ce prix-là, souvent dans le même magasin, voire même au même comptoir, en faisant 2 mètres de côté, le gars, il pouvait acheter un réflexe en kit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ça, je crois que historiquement, dans l'histoire du marché photo, ça s'est jamais produit, cette situation-là. Des gens qui pouvaient tout à fait acheter un réflexe, et qu'on délibérément fait le choix de ne pas l'acheter. Là-dessus, il y a une grosse partie qui, lui, était guidée par la taille. Donc c'est vrai qu'un compact sophistiqué, un réflexe, en question, le problème est réglé. Mais il y a une autre partie de gens, c'est peut-être le gars du gars donc, que tu as interviewé, pour qui l'idée du réflexe, elle ne se posait pas. Alors, et les raisons sont tout le temps les mêmes. Alors ça, moi, j'aime bien poser ça, la question, quand je fais tourner en magasin. En gros, c'est, on peut discuter de chacun des éléments, d'ailleurs. Mais la perception, elle est là. C'est gros, c'est compliqué, c'est lourd. Et au fond, ce qu'on te dit, c'est pas pour moi. Faut voir un truc, c'est que les compacts, eux, ont suivi le chemin des téléphones et de tous ces petits bidules électroniques qui nous entourent, qui se sont personnalisés de plus en plus. Faut penser qu'à l'époque du réflexe à film, les réflexes avaient tous la même tête, hein, grosso modo, ils étaient des gros blocs noirs, machin. Il y avait très peu de trucs un peu différents. Aujourd'hui, tu peux vraiment avoir un compact dans lequel tu t'identifies.
De plus en plus, d'ailleurs, les annonces, voilà. On le voit quand on fait des annonces compactes, c'est ça y est, on l'a sorti en 8 couleurs, on a rajouté 5 couleurs à un bazar.
Parce que la photo, sociologiquement, elle a changé. À l'époque du film, l'appareil photo, il appartenait à la famille, comme le frigo, la commode du salon, la télévision. Aujourd'hui, l'appareil photo, c'est le mien à moi, comme mon téléphone, mon ordinateur portable. C'est ce qui permet d'ailleurs de faire 5 millions d'appareils par an. Les appareils photo, ça se renouvelle. Alors qu'à l'époque du film, on renouvelait le compact quand il était cassé. De leur côté, les réflexes, eux, sont restés figés sur 1970. Tu regardes un réflexe d'aujourd'hui, il est exactement pareil que les Nikon F. Tu sais, j'en ai un à la maison, c'est une merveille. Et puis, on a enlevé le film, on a remplacé ça par un système électronique de capture. Et donc, il y a des fonctions, balance des blancs, etc., qui sont liées au fait qu'il y a de l'électronique dedans. La réflexion du gars que tu as interviewé, c'est simplement que sur les appareils qui sont destinés à monsieur tout le monde, bah, rien n'a changé. Rien n'a changé. On leur dit aujourd'hui, tu veux du loisir, mais ça va quand même falloir que tu aies une blouse grise et puis des bottes de travail, etc. Pour bien comprendre Pana, il faut comprendre que Lumix est une marque grand public, ce qui, chez Pana, est pas léger. Le groupe est coupé verticalement en deux. La vidéo, par exemple, existe en grand public. On a des caméscopes pour filmer les gamins à la plage. Dans le même temps, les gens du broadcast vendent des caméras aux chaînes de télévision, boîtes de cinéma, etc. Lumix n'existe pas dans le domaine professionnel. Ça, c'est vraiment un axe mais qui est majeur et qui est une différenciation majeure par rapport aux grands fabricants historiques, qui, eux, sont plutôt dans l'inverse. Historiquement, ils sont plutôt tournés vers fabriquer des appareils haut de gamme qui déclinent ensuite et dégradent graduellement pour proposer aussi parce qu'il faut faire du volume. Lumix, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'un Lumix, quel qu'il soit, il doit pouvoir être utilisé en mode IA par Madame Michu sans qu'elle se demande comment il marche. Ça a parfois des mauvais côtés d'ailleurs. Et ça, dans tout ce que fait Panasonic, c'est fondamental. Quand parfois Panasonic fait un appareil qui peut vaguement séduire un professionnel ou professionnel au sens générique, un amateur averti, quel qu'il soit, typiquement LX3, c'est par hasard. Hein, c'est par hasard. Il n'a pas été fait pour lui. Mais c'est vraiment un truc qui est essentiel pour comprendre comment ça marche. Et c'est un peu ce qui a amorcé le G avec une approche qui se veut un peu plus fun, un peu plus ouverte, un peu plus ludique, un peu plus... Voilà. Le G, c'est une plateforme qui a été conçue en se disant le même niveau de sophistication qui normalement est fait pour faire des bêtes de course, je vais le mettre pour le côté marrant, fun, loisir, etc.
Et toi, il va nous dire que c'est le Macintosh de la photo. C'était toute l'idée du Mac, hein, c'était de prendre la puissance de calcul phénoménale pour le mettre à service de l'interface.
Mais la comparaison n'est pas juste parce que la différence tarifaire est énorme. Mais s'il fallait comparer, mais quand même, on fait abstraction du prix. Si on fallait comparer un D700 à un G1, effectivement, l'analogie ne serait pas complètement fausse. Le D700 a la puissance que pouvait, surtout au début du Macintosh, avoir un gros PC qui enterrait les Macintosh absolument sans discussion possible. Le G1, lui, a ce côté user-friendly, convivial, que pouvait avoir le Mac. J'ai un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas complètement...
Oui, c'est vachement tiré par les cheveux.
Non, tu parlais de la phrase avec laquelle je commençais toujours, et c'est vraiment ça, c'est typiquement un truc qui nous interpelle. Il y a des gens qui, aujourd'hui, choisissent de pas acheter de petits réflexes. Ça nous interpelle.
Et comme vous n'avez pas de part de marché en réflexe, ça a du sens d'aller attaquer ce public-là.
C'est à ces gens-là qu'on parle, c'est clair. C'est d'autant plus ces gens-là qui nous intéressent que quand tu regardes la tranche entre 300 et 800 euros, par exemple, tu dois avoir à peu près, j'ai jamais fait le compte, mais allez, je vais dire un truc au pif, mais 15 appareils identiques. Mm-hmm. Ce qui change, c'est le nom qui est marqué sur le prix. Le gars qui a envie d'acheter un réflexe, on peut pas dire que les propositions lui manquent. En revanche, je te dire, tiens, ce monsieur qui justement tourne les talons quand il regarde le rayon de réflexe, plutôt que de lui rajouter un 17e pareil, essayer de lui faire une proposition un peu différente, ça peut avoir du sens, voilà. Et là maintenant, ça va en avoir de plus en plus au fur et à mesure que la famille s'étoffe. Au début, c'était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas grand-chose, quoi. Là, ça commence à prendre un peu d'allure, donc voilà. Le côté ironique de la chose, c'est que les gens qui achètent des réflexes, quand tu leur demandes pourquoi, ils te disent parce que je peux faire ci, parce que je peux faire ça, parce que en pratique, alors ça c'est un de mes loisirs préférés. Regarde quand tu es sur des lieux de vacances, j'engage tous tes auditeurs à faire l'expérience, elle est vraiment sidérante. Chaque fois que vous allez voir quelqu'un qui a un réflexe autour du cou, il est tout le temps, alors ou sur le carré vert, ou en mode programme, etc. etc. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes un compact à 150 euros. Tu as maintenant de plus en plus des engins extrêmement sophistiqués pour leur niveau de prix, qui te prennent complètement en charge. Tu mets 10 fois plus d'argent dedans, tu te retrouves avec souvent des modes scène un peu à la serpette, un mode programme un peu vite fait, pas parce que les fabricants de réflexes sont des andouilles, mais tout simplement parce que ces appareils sont conçus pour des gens qui ont l'automatisme dans la tête et qui ont des réglages dans la tête. Bah lui, il a le même niveau d'automatisme que tu as sur nos compacts sophistiqués, enfin, etc. Donc c'est l'interface qui est différente foncièrement entre un G et un autre appareil. L'interface est radicalement différente. Mais la photo, c'est un loisir, enfin, c'est pas un truc. On a des fois à défendre des trucs comme si on était en train de vendre des choses où notre vie en dépendait, mais la photo, c'est fait pour se faire plaisir, quoi. Regarde les forums, les sites, les machins, on te parle de bits, de pixels, de machins, et quand on parle de photos, c'est souvent sur un angle assez onaniste, hein. T'as pas l'impression que c'est un domaine où on se fait plaisir, en quelque sorte. C'est vraiment ça. Mm-hmm. Regarde, consulte des forums, des magazines, des machins, t'as l'impression de gens qui souffrent en comptant des nombres de bits et nombres de pixels. Tu as pas l'impression de gens qui s'éclatent, qui se font plaisir, qui ont la banane jusqu'aux oreilles, qui se marrent, qui sont heureux, qui partagent des trucs sympas, qui essayent d'en garder une mémoire. C'est vraiment flagrant. Il me semble, mais avant c'était toujours mieux. Donc faudrait voir.
C'est pour ça qu'on n'a pas dit l'âge.
Voilà, c'est ça. Mais il me semble qu'avant il y avait un côté plus normal et plus festif dans tout ça. La photo, elle c'est en train de son informatisation dans l'approche des gens, elle c'est en train de l'entraîner vers quelque chose d'extrêmement triste, quoi. J'ai rarement vu, je sais pas si ça t'est arrivé, mais rarement lu un forum, un site, un machin ou un canard en me disant, putain, le mec a fait ça, il s'est pris un panard d'enfer. Or quand même, a priori, si on dépense tout ce pognon qu'on a chèrement gagné, hein, dans les appareils photo, c'est quand même pour se faire plaisir.
Luc, merci d'avoir pris le temps de partager tout ça.
Long life de déclencheur.
Merci, monsieur.
Quelques mots avant de conclure pour réagir à certains commentaires récents postés sur déclencheur. On a fait le reproche, depuis un moment, il n'y a plus de rubrique de réponse aux commentaires. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué en nous, on a dû bosser sur d'autres choses pour le futur de déclencheur, et quand il a fallu choisir, j'ai préféré conserver les sujets photos plutôt que les commentaires. Ça n'a pas été facile parce que c'est une rubrique que j'aime beaucoup, mais bon, il faut parfois faire des choix. Ce que j'ai constaté, c'est qu'un certain nombre de ces discussions se sont déplacées sur Carnet, donc n'hésitez pas encore une fois à lire Carnet pour y participer. Néanmoins, la disparition de la rubrique commentaires dans les émissions, elle est temporaire. Donc si vous aimiez cette rubrique commentaires, rassurez-vous, elle va revenir, c'est prévu. Je voulais, en conclusion de cette émission, lever le voile sur le résultat de nos travaux. Très bientôt, la semaine prochaine ou dans 15 jours au plus tard, un nouveau site de déclencheur sera en ligne. Un nouveau site pour supporter une nouvelle formule éditoriale et une nouvelle formule commerciale. Qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, on vous proposera deux versions de déclencheur et ce sera à vous de choisir. Soit vous ne changez rien, eh bien vous continuerez à apprécier ce que vous connaissez aujourd'hui, qu'on va appeler maintenant la version silver de déclencheur, la version argentée, qui continuera à vous proposer gratuitement ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire, si je résume en trois points, des sujets photos de qualité, c'est quand même un petit peu la base, un format conçu pour être pratique, et vos retours le confirment, c'est un format que vous appréciez, parce que vous pouvez en profiter où vous voulez, quand vous voulez, en voiture, en train, en métro, à la maison, au bureau, etc. Bref, c'est vous qui décidez. Et la compatibilité avec tous les gadgets, donc les baladeurs, les téléphones, les ordinateurs, pour justement vous permettre d'en profiter au mieux. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on leur proposera l'édition qui s'appelle Gold, une édition dorée, qui vous proposera, de nouveau en trois points, un traitement plus pointu des sujets, pour ceux qui veulent aller plus loin en photo, le choix entre mono, stéréo, chapitrage, des diaporamas ou d'autres compléments selon le format, tout ça pour s'adapter au mieux aux outils que vous utilisez, donc selon que vous écoutez sur le site, que vous téléchargez sur un iPod, que vous avez un forfait data limité, etc., eh bien vous pourrez choisir l'option la plus adaptée. Et enfin, des options d'achat personnalisées. Vous nous l'avez demandé quand on a mis en vente un certain nombre d'épisodes. Eh bien, on vous proposera soit l'achat au numéro, soit différentes formules de souscription. À bientôt donc. Joyeux Noël et bonne année 2010.